Et pour cette deuxième heure des matins du samedi, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une grande intellectuelle américaine. Il y a un an, le New York Times lui consacrait un portrait pour expliquer comment elle était devenue la voix de la résistance contre Donald Trump, notamment en matière de féminisme et d'écologie, qui sont ses deux principaux chevaux de bataille. Cet hiver, en pleine affaire Weinstein et MeToo, les médias français se sont fait un large écho de la publication en français de son livre « Ces hommes qui m'expliquent la vie » paru chez L'Olivier. Et puis donc, au Marathon des mots, elle est invitée autour de son essai précédent qui date de 2002, « L'art de marcher ». Bonjour Rebecca Solnit.
Good morning.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci à votre interprète de ce matin, Marjorie Yerushalmi, qui va donc interpréter vos propos simultanément. Vous êtes la voix de la résistance, c'est comme ça que vous vivez aujourd'hui.
Ce ne serait pas la résistance s'il y avait beaucoup de voix, mais j'en suis fière.
America, c'est une revue qui paraît en français, Rebecca Solnit, qui titre son numéro 6 « Ladies first », en clin d'œil, bien entendu, au slogan de Donald Trump, avec un certain nombre de femmes écrivaines comme Toni Morrison, comme Leila Slimani, comme Cyrus Vett. On y reviendra tout à l'heure dans la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. « Ladies first », est-ce que ce serait un bon slogan aujourd'hui ?
Les dames, les femmes, ladies, c'est bizarre, plutôt que femmes.
And first at what? First, we're certainly first in the line of Trump resistance right now.
Je serai en première ligne dans la résistance contre Trump.
At 630 women were arrested demonstrating against ICE.
Nous avons 630 femmes qui ont été arrêtées.
Our immigration Gestapo,
nous avons une Gestapo migratoire qui agit et qui a agi la semaine dernière.
C'est-à-dire.
Il y a eu
une manifestation de désobéissance civile. 630 de ces manifestantes ont été arrêtées. Et cette résistance est majoritairement féminine. Depuis la marche des femmes après l'inauguration de Trump. Donc elles interpellent les politiciens, elles leur demandent quoi faire, que peuvent-elles faire, elles protestent. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations qui se manifestent, mais elles sont essentiellement féminines.
Est-ce que vous craignez pour les droits des femmes aujourd'hui, Rebecca Solnit? Est-ce que vous craignez une régression des droits des femmes?
I do.
Absolument.
You know that there's a direct assault on things like reproductive rights.
Il y a également la question des droits reproductifs.
But Trump also represents a culture of misogyny.
Mais Trump représente également une culture de la misogynie.
And in which women are decorative or toys or property.
Dans laquelle les femmes ne sont que des jouets, que des propriétés, que des biens.
But not equal.
Mais en aucun cas elles ne sont des égales.
Vous parlez de la reproduction et des droits de la reproduction. En ce moment, jusqu'en France, on entend beaucoup parler de la démission d'une grande figure de la Cour suprême, Anthony Kennedy, défenseur des droits des homosexuels, qui a voté les restrictions à la surpopulation carcérale, à l'utilisation de la peine de mort. Il a protégé le droit à l'avortement. C'était un conservateur, mais qui a pu être dans le camp des progressistes à certains moments. Il a souvent été perçu comme un garde-fou. La démission d'Anthony Kennedy fait craindre une régression, là aussi, en termes de progrès des droits, et notamment des droits des minorités, et notamment des droits des femmes. Rebecca Solnit, aujourd'hui, à Paris, se tient la Gay Pride. Vous craignez aussi une régression en matière de droits des minorités ?
Absolument. Trump représente
une tentative de revenir à un monde où les hommes géraient tout, régissaient tout, détenaient tous les pouvoirs, que l'homme blanc, en fait, détenait tous les pouvoirs.
Il a malgré tout été élu par un certain nombre de femmes également, Rebecca Solnit. On est dans un vrai paradoxe.
Cela ne devrait pas être une surprise pour nous que toutes les femmes ne sont pas des féministes.
And we could talk about the election and everything.
Et nous pouvons parler des élections pendant des semaines.
Of course, Hillary Trump won by a landslide.
Et donc, bien sûr, la victoire de Trump, c'était un raz-de-marée.
The popular vote. And there's
le vote populaire.
Quite a lot of evidence that the election was corrupted.
Mais néanmoins, on peut dire qu'on pense que le vote a été truqué, en tout cas d'une certaine manière.
But we have no precedent for that.
Mais nous n'avons aucun. Il n'y a pas eu de jurisprudence, il n'y a pas de précédent pour cela.
On parle beaucoup aux États-Unis. En tous les cas, c'est comme ça que nous l'entendons, nous le lisons ici en France, Rebecca Solnit. On parle beaucoup de cette fracture, qui d'ailleurs ne touche pas seulement les États-Unis, mais cette fracture, cette division même en deux, entre la population qui serait à l'ouest des États-Unis, celle qui serait au centre des États-Unis, ouest et est d'ailleurs, la population des grandes villes américaine, la population qui serait du centre de la campagne, des petites villes moyennes. Est-ce que vous le ressentez comme tel? Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un monde à part, vous qui venez de la côte californienne?
Il y a tellement de manières de parler de nos divisions. Parfois, c'est comme si la guerre de sécession n'avait jamais pris fin et que les confédérés sont maintenant au pouvoir.
And we have progressive people everywhere.
Nous avons des gens progressifs partout, partout dans les États-Unis et aussi des conservateurs, et même à San Francisco, d'où je viens.
They have no power, but there are, you know, so there are many kinds of divides.
Il y a beaucoup de fractures, beaucoup de divisions.
Comment les analysez-vous?
You know, one thing important.
Eh bien, il est important de penser que le soutien de Trump est pratiquement majoritairement blanc. Et le futur des États-Unis n'est pas blanc. 50% des enfants qui naissent aux États-Unis ne sont pas blancs. Et ils ne soutiendront jamais le parti républicain qui n'est que pour la haine.
Donc c'est un monde ancien, c'est un monde d'arrière-garde, à vos yeux, qui a voté pour Donald Trump?
It is older people.
Oui, c'est des gens peut-être plus âgés.
And even his horrible slogan, "Make
Mais
America Great Again",
son slogan également,
was really a slogan to
c'est un slogan qui prétend pouvoir revenir à un passé qui, en fait, n'a jamais vraiment existé.
An imaginary past of
un passé imaginaire de blancheur, de patriarcat.
The subjugation of people of
de
color,
la subjugation des gens de couleur, de la communauté LGBT.
Est-ce que vous êtes entendue avec ce discours aujourd'hui, Rebecca Solnit? Auprès de qui êtes-vous entendue?
Les jeunes femmes, les activistes, mes collègues activistes.
It's an interesting moment, though,
c'est un moment intéressant, toutefois, parce que pendant la guerre, les choses, par exemple, les choses qui avaient pu avoir de l'importance, par exemple, sous Obama, non, non plus aujourd'hui.
And opposed to Trump are a huge number of people
par rapport à Trump,
from
il y a beaucoup de gens, des radicaux aux anciennes écoles. Il y a des coalitions intéressantes. Pas nécessairement des gens qui m'écoutent, mais peut-être un sur mille.
La fondation Thomson Reuters a dévoilé le 27 juin, c'était donc cette semaine, son classement des pays les plus dangereux pour les femmes. Peut-être en avez-vous entendu parler, Rebecca Solnit, parce qu'une information est de taille. D'abord, on a appris que l'Inde était le premier pays en termes de violence faite aux femmes. Ça comprend un certain nombre de critères. Et la deuxième information de taille, c'est que les États-Unis sont le seul pays occidental du classement. Et ils remontent même, les États-Unis, à la troisième position, si on tient compte, des seules violences sexuelles. Comment réagissez-vous à une telle information?
Je voudrais peut-être étudier davantage, avec plus de précaution, la manière dont ils ont recueilli leurs informations. Beaucoup de pays ne signalent pas ces violences de manière appropriée. Je ne nie pas la violence faite aux femmes aux États-Unis, mais Je vous n'êtes pas si seul.
Ça n'est pas le seul pays occidental. C'est le premier à rentrer dans le classement. L'Inde, donc, est le premier pays de ce classement. L'Afghanistan est le deuxième pays de ce classement. J'ai pas tous les noms des pays en tête, mais arrive, disons, à la 10e place. Les États-Unis. On ne pouvait pas imaginer cela il y a même 5 ans, 6 ans. On parlait de droits des régressions, nous sommes de régression des droits, plus exactement. On y est, Rebecca Solnit.
Au niveau des statistiques, la violence domestique et le viol ont beaucoup diminué aux États-Unis.
Which is just to say the epidemic, the war against women, isn't as bad as it was in the
1970s. C'est peut-être dire que l'épidémie, la violence faite aux femmes, est peut-être moins importante que dans les années 70, même si ça reste quelque chose d'extrêmement important et terrible. Mais je pense qu'en Occident, nous avons beaucoup avancé.
Addressing these crimes that feminism first named, workplace sexual harassment,
le harcèlement dans le milieu du travail, la violence domestique, nous avons beaucoup avancé sur tout cela.
Marital rape,
le viol marital.
Things we talk about in English, date rape, acquaintance rape. I don't know if you have words.
Les viols lors de rendez-vous galants, on va dire, les viols en réunion.
And so.
Vous êtes plutôt optimiste.
Vous savez, le féminisme, c'est une tentative de modifier des habitudes vieilles de 5000 ans. Et c'est vrai que nous avons, depuis 50 ans, fait de bons progrès. Et je pense que nous avons bien avancé dans le travail, même s'il est loin d'être terminé.
Rebecca Solnit, vous êtes une figure de la gauche progressiste américaine. Malgré tout, si on prend un peu de recul et qu'on s'éloigne des États-Unis, à proprement parler, pour regarder un peu de loin, un peu de haut, espérons-le, le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, on a quand même l'impression qu'on oscille entre deux tendances extrêmement opposées. D'un côté, effectivement, une idée de progrès, en tous les cas, en ce qui concerne les femmes, comme vous l'avez dit, depuis quelques dizaines d'années, disons. Et puis de l'autre, l'impression qu'on est à nouveau tiré en arrière ou vers le bas, avec des forces contradictoires et contraires. On ne sait pas du tout qui va l'emporter. Est-ce que ça veut dire que c'est une bagarre, une bataille qu'il faut sans cesse mener et que menait par exemple quelqu'un en France, comme Simone Veil, à qui on rend hommage aujourd'hui et qui entrera au Panthéon demain?
For every either or
pour
question,
moi, pour chaque question,
for me, the answer is usually yes.
la réponse est en général oui. Est-ce que les choses vont mieux? Oui. Est-ce qu'elles vont plus mal? Oui. Et je regarde ma vie, enfin, sur la période de ma vie, les transformations, même dans l'imagination, penser aux droits des minorités, des gays et des lesbiennes, d'avoir un langage pour parler de l'environnement également. Mais en même moment, nous avons eu la décolonisation, des valeurs absolument différentes, diverses par rapport à l'autorité, avec un impact personnel et politique. Et bien sûr, la survenue des niveaux de carbone sur la planète. Beaucoup de dégradations culturelles également, et certaines venant de mon propre endroit du monde, Silicon Valley.
Yes.
Donc oui.
Oui, alors restons sur ce oui, mais on le laisse en l'air. On y reviendra dans quelques minutes avec vous, Rebecca Solnit, juste après la revue de la semaine présentée par Mélanie Chalandon. Il est 8h31 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et cela fait donc la une de beaucoup de nos journaux ce matin, Le Monde, Le Figaro, Libération. Simone Veil, dont on célèbre la mort aujourd'hui il y a un an, entrera donc au Panthéon demain avec son mari Antoine. Elle sera inhumée dès demain, cérémonie à 11h30, Mélanie Chalandon.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Et on l'évoquait effectivement en début d'entretien, Simone Veil sera inhumée demain au Panthéon. Alors vous connaissez cette phrase, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Vous ne vous êtes jamais demandé, Caroline, pourquoi la patrie ne serait reconnaissante qu'aux hommes ? L'historienne Michèle Perrault pose la question dans un long entretien qu'elle a accordé au Monde des idées, même si, confie-t-elle, dans ma jeunesse, comme la plupart des féministes de ma génération d'ailleurs, je n'aurais jamais demandé qu'une femme entre au Panthéon. C'était le jouet des hommes, je ne lui accordais aucune importance et il y avait bien d'autres combats à mener, explique-t-elle. Alors les choses ont-elles changé aujourd'hui ? Oui, dit Michèle Perrault, pour qui il faut savoir jouer avec les symboles républicains. Alors quelle est la portée symbolique de cette entrée au Panthéon ? Simone Veil est à la fois, je cite, « un grand homme et une grande femme ». Un grand homme parce qu'elle incarne les principaux combats du XXe siècle, l'égalité des sexes, l'espérance européenne et la mémoire de la Shoah. Et une grande femme parce qu'elle a toujours été, au cours de sa vie, une pionnière, prenant sa place dans un espace public jusqu'ici réservé aux hommes, comme magistrate, puis ministre, puis présidente du Parlement européen. Les femmes d'exception ont toujours mis la société française mal à l'aise, décrypte Michèle Perrault. En devenant de grands hommes, elles sortent de leur rôle supposé de nature.
Et puis des combats d'hier à ceux d'aujourd'hui, je le citais tout à l'heure, la revue America s'intéresse aux Ladies First.
Ladies First, quand les femmes défient Trump. C'est la couverture et le dossier du dernier numéro de la revue America qui vient de paraître, un dossier très riche où on trouve notamment une enquête de l'écrivaine Leila Slimani. Leila Slimani est partie à la rencontre de cette jeunesse américaine qui entend repenser les codes de la sexualité. Sur les campus américains, raconte-t-elle, il existe désormais des chartes du consentement explicite qui stipulent que pour chaque étape d'un rapport sexuel, vous devez obtenir un assentiment verbal sous peine de procédure disciplinaire. Une application a même vu le jour en avril dernier, Yes to Sex. Elle permet d'enregistrer les fameux consentements qui sont ensuite stockés sur un serveur sécurisé et disponibles en cas d'enquête judiciaire. Alors, faire disparaître toute confusion dans la sexualité, une ambition à la fois vaine et un peu effrayante, écrit Leila Slimani. Car, au fond, que signifie consentir ? Pour l'écrivaine Nancy Houston, qui s'exprimait hier dans Libération, cette notion de consentement est plus ambiguë qu'il n'y paraît. Elle ne saurait, selon elle, se réduire à ce « oui » comme s'il était un sésame. Le plus souvent, écrit-elle, une femme qui dit « oui » au tout venant, à des clients ou à des hommes qu'elle aime et qui l'avilie, a déjà été abusée avant. Elle nous raconte ces histoires de couples dits libertins où l'on réalise que ces pratiques sont en fait subies par les femmes. Et puis aussi l'histoire de son amie, l'écrivaine Olivia Profisi, qui prononça de nombreux « oui » pour un homme qui l'emmena toujours plus loin dans des rencontres spéciales. « J'ai été battue et violée, mais j'étais d'accord. Personne ne m'a obligée », témoigne-t-elle dans un livre qu'elle fera paraître ensuite. Bref, le consentement pour Nancy Houston est un leurre qui cache des drames historiques, des inégalités économiques et de sales petits secrets psychologiques. L'idéal, conclut-elle, serait de n'avoir à dire ni oui ni non, que chacun soit dans le désir, l'envie, la passion, la libre libido, voire l'amour fou. Bref, bannir la notion même de consentement de notre vocabulaire érotique. Et à propos d'érotisme, pour terminer, je vous invite à découvrir le dernier numéro du magazine Le Boudu, B-O-U-D-U, journal toulousain, un très beau mensuel qui propose un reportage sur une école de l'érotisme à Toulouse, l'école de Capucine, du nom de la jeune sexologue qu'il a créée et qui en défend une définition très large, surtout pas réduite à l'imaginaire barésie et talons hauts. Pour elle, l'érotisme est une énergie avant tout, celle du désir et du jouir, de l'imagination et de la créativité, bref, de ce qui nous rend vivants.
Merci Mélanie Chalandon. Alors peut-être une réaction, Rebecca Solnit, à ce que vous venez d'entendre. D'abord, donc, sur cette figure politique qu'a été Simone Veil, cinquième femme, si l'on compte Sophie Berthelot, qui est entrée au Panthéon pour que son époux et elle ne soient pas séparés, sur 76 personnalités au Panthéon, est-ce que ça dit quelque chose, ça, du rapport homme-femme ? Et puis, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, américaine, Simone Veil ?
I wish I knew more about her.
J'aurais aimé en savoir davantage sur elle.
And I'll go find out more about her today.
Et je vais me renseigner davantage aujourd'hui sur elle, mais
her internment hasn't been covered, and I'll go read about her today.
Je vais lire davantage de choses sur elle. Je n'ai pas vraiment.
I'm not currently equipped to comment.
Je ne suis pas équipée à l'heure actuelle.
Est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, si j'entends bien votre réponse, Simone Veil n'est pas une figure qui est connue des milieux intellectuels?
She's not.
Non.
To my knowledge, at least not to me.
She en tout cas, pas others. Pour moi. Peut-être que d'autres intellectuels la connaissent, mais moi, beaucoup.
Femme politique, on lui doit donc la loi sur l'avortement en France en 1974. Elle a été déportée à l'âge de 16 ans dans le camp d'Auschwitz-Birkenau avec sa mère et sa sœur. Cette déportation a été le fondement de son humanisme de toujours. Elle a ensuite défendu des idées d'humanisme au Parlement européen. Elle a construit l'Europe à sa façon. Donc, très grande figure politique, très importante pour nous, pour les Français. Rebecca Sonny, je vous laisserai donc lire les journaux du jour en français si vous en avez l'occasion pour vous informer sur cette figure de Simone Veil. Peut-être sur le deuxième point évoqué, là qui vous concerne plus, puisqu'il s'agit des États-Unis et donc de votre pays, évoqué par Mélanie Chalandon, cette histoire de consentement explicite sur les campus américains, telle que la rapporte notre écrivaine Leila Slimani. Vous en avez entendu parler de ça ?
Nous n'avons personne, en fait, vraiment qui enregistre un consentement sur un serveur. Je pense que peut-être que les États de New York et de Californie ont un consentement affirmatif. Mais ce qui est peut-être plus remarquable par rapport au consentement, c'est plutôt combien d'hommes semblaient un peu ennuyés par le fait que leur partenaire devait être consentante et qu'elle soit désireuse d'avoir un rapport sexuel avec eux. Il y a beaucoup de blagues sur ce sujet. Si vous ne pouvez pas avoir de partenaire sexuel consentant, donc quelle serait votre vie ? Bien sûr, le problème est que là, on parle de femmes qui seraient droguées ou qui ne seraient pas en mesure de donner leur assentiment. L'idée est que si vous ne dites pas non de manière active, alors la responsabilité, quelqu'un qui ne voudrait pas avoir de relations sexuelles et les personnes qui voudraient. Donc, il faut être sûr de ce que les gens ce n'est pas vraiment difficile de savoir ce que les deux parties en question ont envie de faire ou pas.
C'est d'ailleurs, Rebecca Solnit, une des choses qui pourrait être dans le recueil de textes qui a paru cette année en français, mais que vous aviez écrit en 2014, paru sous le titre « Ces hommes qui m'expliquent la vie », qui était donc un des articles que vous aviez écrit il y a 10 ans, en 2008, ce qui fait qu'on a beaucoup dit depuis l'automne dernier que vous aviez été la femme qui avait prédit MeToo. Il se trouve qu'on vous a attribué la maternité de ce mot, le mansplaining, qu'on a traduit par m'explication. Vous racontez, c'est d'ailleurs le premier article de ce livre, vous racontez que vous avez été victime d'une situation particulière, cette situation de mansplaining. Il faudrait quand même, puisque nous avons la chance de vous avoir ce matin, que vous nous expliquiez ce que c'est ce mansplaining, même si vous refusez d'en porter la maternité, peu importe le terme. Qu'est-ce que c'est que cette situation ? Comment la résumer, cette attitude masculine ?
Ah, mansplaining.
M'explication.
The anecdote I tell is about a man.
Mansplaining. C'est l'anecdote que je raconte, c'est celle d'un homme qui m'a interrompu sur un livre que j'avais moi-même écrit.
That in fact was a book I had written. And so a man explaining my
Donc
own book
lui
to me.
M'explique un livre qu'il vient de lire et qui en fait est mon livre.
C'est
amusant en fait, mais ça fait partie de cette question plus large.
That connects to consent to these other things.
Qui se lie au consentement. Quand est-ce que la femme et sa voix sont entendues? Quand est-ce qu'elle fait partie de la conversation? Quand est-ce que sa voix se fond et disparaît?
Because she's assumed to not know what she's talking about,
Parce
to not matter,
on
to not
assume
be a legitimate
qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, et qu'elle n'est pas légitime dans sa pensée, peut-être qu'elle, parce qu'elle est intimidée, and, parce qu'elle est harcelée, parce qu'elle est exclue.
So of course this thing that happened to me was very
Bien
funny,
sûr,
but
alors, ce qui m'est arrivé, c'est amusant parce que cet homme assumait qu'il savait et que c'était à moi de l'écouter.
Et
bien sûr, il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Et donc, imaginez-le, m'expliquer mon livre à moi-même.
Ça, ça vous est arrivé, Rebecca Solnit, il y a 10 ans, hein, en 2008. Depuis, vous avez écrit ce livre, qui est donc un recueil de textes paru jusqu'en 2014. Et puis, est arrivée l'année dernière l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo. Est-ce que pour vous, on assiste à un réel tournant? Ou bien c'est une simple phase dans cette longue histoire de l'émancipation ou de la libération des femmes et de ces changements de rapport entre les hommes et les femmes.
Pas un début, mais une combinaison du travail que les féministes ont créé. Elles ont créé le cadre idéal pour que les victimes puissent être entendues. Ce qui est choquant par rapport à Harvey Weinstein ou Bill Cosby ou DSK également, c'est qu'ils ont pu faire ces choses de manière répétée. Et ça, c'est parce que les femmes n'ont pas été écoutées. Et donc, pour changer ces circonstances, il faut que ces femmes deviennent audibles et qu'on puisse les écouter, les entendre, les comprendre et les croire. Et le fait de les rendre silencieuses ont fait qu'elles étaient difficiles à audibles. Et ça, c'est des choses qui ont duré pendant des décennies et quelque chose a changé là. Et je pense que c'est parce qu'il y a tellement de femmes et tellement d'hommes qui ont soutenu des femmes qui étaient en position de pouvoir. C'est des histoires anciennes, mais on a pu les écouter et enfin il y a pu avoir des conséquences.
C'est
le féminisme qui a permis à des femmes de devenir juges, de devenir productrices de télévision, etc. C'est le féminisme qui a changé l'équilibre de la manière dont les histoires ont pu être dites, comment les femmes ont pu être traitées en tant que personnes dignes de foi.
On parle des femmes, et on fait bien de le faire. Mais qu'en est-il des hommes, Rebecca Solnit? On voit aussi dans ce double mouvement, qui est le mouvement du monde et la marche du monde aujourd'hui, on voit aussi un mouvement de malaise de certains hommes. On parle d'un mouvement d'un déclin de la masculinité. Certains hommes se sentiraient mal à l'aise aujourd'hui, de par ce mouvement de libération des femmes, et de par aussi tout ce qui est dit autour des femmes, de la position des femmes dans la société, du fait qu'elles accèdent à des postes qui étaient jusque-là réservés à des hommes, etc., etc.
And it's funny how much we've talked about male discomfort during this.
Living in a culture in which you can be raped and no one will believe you. Et donc, dans un contexte où des femmes sont violées et vous le racontez, personne ne vous croit. Et donc, en fait, essentiellement, on essaye de mettre fin. Je pense que la gêne, si l'on met ça au niveau féminin, c'est assez léger. Quand on a souffert de viols et de situations terribles. Que les hommes soient un peu mal à l'aise, mais ils restent au centre d'histoires, de telles histoires néanmoins. Mais si vous ne voulez pas, enfin, les hommes sont un peu anxieux, peut-être, et s'ils se sentent un peu déstabilisés, peut-être que c'est bien du coup, parce que les femmes l'ont été depuis des millénaires. Je ne m'inquiète pas trop pour les hommes.
Allez, 8h45 sur France Culture, toujours en direct et en public de ce Festival international de littérature, le Marathon des mots. 8h45, c'est l'heure de l'idée culture. Et de la masculinité à la virilité, il n'y a finalement qu'un mot, Mélanie Chalandon. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Ce matin, il s'agit d'une philosophe, elle-même invitée du festival.
Absolument. Il s'agit d'Olivia Gazalet. Olivia Gazalet, philosophe, cofondatrice des Mardis de la Philo, un cycle de conférences sur des grands sujets à Paris. Elle travaille sur le genre, l'identité sexuelle. Elle est donc aussi invitée du festival Le Marathon des Mots. Elle participait hier avec l'écrivaine Léonore de Recondo à une réflexion sur l'identité masculine. D'ailleurs, son dernier ouvrage paru en 2017 aux éditions Robert Laffont s'appelle Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Alors son choix culturel porte sur de la littérature, ça tombe bien. Et on reste proche de ces sujets de prédilection, mais avec de la fiction, parce que la fiction, dit-elle, permet d'incarner des problématiques complexes.
C'est un roman qui s'appelle Middle Sex, d'un auteur américain qui s'appelle Jeffrey Eugenides et qui est aussi l'auteur de Virgin Suicides, qui est plus connu par l'adaptation qu'on a donnée Sofia Coppola pour le cinéma. Et c'est un roman qui m'a littéralement ébranlée très profondément. Voilà, que j'ai lu il y a quelques années, totalement par hasard. Je suis tombée dessus, vraiment, ce qu'on appelle tombée dessus. C'est le genre de roman dans lequel on entre et qui est complètement addictif. Jusqu'à la dernière page, on tourne frénétiquement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tourné frénétiquement les pages. En fait, c'est l'histoire d'un hermaphrodite. Et ça commence comme ça. La première phrase, c'est « J'ai eu deux naissances. D'abord comme petite fille à Détroit par une journée exceptionnellement claire du mois de janvier 1960, puis comme adolescent au service des urgences d'un hôpital proche de Petoskey, Michigan, en août 1974. » Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit comme n'importe quelle petite fille. Et à l'adolescence, il se passe des choses un petit peu bizarres qu'elle ne comprend pas très bien dans son corps, jusqu'au jour où, par hasard, on découvre qu'en fait, elle a une anatomie très ambiguë et qu'elle a des organes génitaux masculins cachés derrière son pubis, en fait. Et les médecins, en fait, voudraient l'opérer pour la transformer véritablement en fille, enfin pour corriger ce qu'ils considèrent eux comme une anomalie, et elle refuse, ou elle refuse, on ne sait plus comment bien le dire, et là il s'ensuit tout un périple initiatique, et là on remonte sur deux générations à ses grands-parents, qui en fait sont des Grecs qui ont dû fuir Smyrne au moment du massacre par les Turcs aux États-Unis, et donc à travers ce personnage, c'est toute une épopée, une immense saga familiale qui nous emmène dans ce tourbillon. Enfin, c'est vraiment un roman fleuve. Et on a aussi toute l'histoire des États-Unis et tout y passe. C'est-à-dire qu'on a la crise de 29, on a, comme ça se passe à Détroit, on a les débuts de l'industrie automobile, le fordisme, l'immigration, les usines Ford, la prohibition, les premières émeutes raciales, la guerre du Vietnam. Enfin, toute l'histoire des États-Unis y passe. Et puis après, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est toutes les réflexions sur l'identité de genre, sur la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'être normal ? Et moi, je pense que c'est un livre qui est vraiment d'utilité publique. Quand on le lit, on ne peut plus être transphobe. En plus de ça, c'est écrit dans une langue superbe, très foisonnante, et avec beaucoup d'humour. Vraiment, c'est un roman qui est riche. Voilà, tout simplement, il est riche. Enfin, on est trimballé par cette famille, mais sans savoir vraiment où on va. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est quand on ne sait pas où on va dans un roman. On ne sait pas où il nous emmène, mais il nous emmène quelque part, mais on verra bien où. Voilà. Après que je fus revenue de San Francisco et que je me fus mis à vivre en garçon, ma famille découvrit que, contrairement à la croyance répandue, le genre n'était pas si important que ça. En passant de fille à garçon, je subissais un changement beaucoup moins important que celui qui consiste à passer de l'enfance à l'âge adulte. Pour la plupart des choses, je demeurais la personne que j'avais toujours été. Même aujourd'hui que je vis comme un homme, je reste essentiellement la fille de Tessie. Tessie est sa mère. Je suis toujours celui qui n'oublie jamais de l'appeler tous les dimanches. Je suis toujours celui à qui elle confie la liste des mots chaque jour plus longue. Comme toute bonne fille, je serai celui qui s'occupera d'elle quand elle sera vieille. Nous dissertons toujours sur les défauts des hommes et lorsque nous sommes ensemble à Détroit, nous allons toujours ensemble chez le coiffeur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, le personnage nous rappelle que le genre n'est peut-être pas la catégorie la plus fondamentale pour séparer les individus. Il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, il y a souvent plus de similitudes entre hommes et femmes nés sous les mêmes auspices sociaux à la même époque, dans la même aire géographique, qu'entre deux femmes que tout sépare socialement.
Donc c'était l'idée culture de la philosophe Olivia Gazalet. Et si vous avez eu envie à l'écoute de lire le roman Middlesex de Geoffrey Eugénides, eh bien c'est paru en France aux éditions de l'Olivier. Et un nouveau roman est à paraître justement à la rentrée, Des raisons de se plaindre, en septembre, toujours aux éditions de l'Olivier.
Merci Mélanie. Magnifique roman Middlesex, Rebecca Solnit, que vous avez lu, je crois.
I have read it and I loved it.
Oui, en fait, je l'ai lu et je l'ai adoré.
And of course, it reminds us having this conversation about men and women.
Me rappelle cette conversation, les conversations nombreuses qu'on a entre hommes et femmes.
That all categories are leaky.
Que toutes les catégories ne sont pas totalement hermétiques et qu'il y a des exceptions à toute règle.
Mon petit doigt me dit, Rebecca Solnit, que si je vous avais demandé une œuvre artistique qui vous a particulièrement marqué dans votre vie, sans doute m'auriez-vous donné un titre de Virginia Woolf, que vous citez dans au moins 6 de vos livres et dont vous reprenez un épigraphe dans Garder l'espoir, l'avenir est sombre, ce qui je crois est la meilleure des choses pour un avenir. Virginia Woolf.
The opening sentence of my book
la
on
phrase
hope.
Qui ouvre mon livre, oui.
Virginia Woolf,
Virginia
in her diary
Woolf dans son journal pendant la guerre, Première Guerre mondiale, dit
«
Le futur est sombre et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, je pense. »
Qu'aimez-vous tant chez Virginia Woolf?
I love that she writes very beautifully about
son écriture si belle dans des sujets qui lui sont profondément chers, mais également tout ce qu'elle écrit au niveau politique. Elle a un spectre politique d'idées politiques importantes.
But also a wonderful capacity to
mais
engage
également
with
sa capacité
the mysterious, the unknown, the subjective,
de, d'avoir le subjectif, le mystérieux, et aussi le fait de pouvoir s'adresser au monde. Dans un monde où on vit dans l'incertitude, nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir.
Mais il faut garder l'espoir, comme il faut pouvoir marcher, garder la pensée en mouvement, faire de la pensée une activité physique de plein air. L'art de marcher, c'était le titre de votre ouvrage dont vous allez parler ici, au Marathon des mots. Et puisque la route est longue, mais qu'elle est là, je vais citer la fin de Ces hommes qui m'expliquent la vie, Rebecca Solnit. La route est longue, la route est là, elle s'étend peut-être sur 1000 kilomètres, mais la femme qui l'emprunte n'en est pas à son premier. J'ignore quelle distance il lui reste encore à parcourir, mais je sais que quoi qu'il arrive, elle ne fera pas machine arrière et qu'elle ne marche pas seule. Peut-être qu'un nombre incalculable d'hommes, de femmes et de personnes à l'identité sexuelle intéressante l'accompagnent. Est-ce que, Rebecca Solnit, rien à voir, vous aimez la confiture?
I love jam.
J'adore
Eaten
la confiture.
Directly out of the jar.
Et même avec directement dans le pot avec une cuillère.
Et ben voilà qui va faire plaisir à Jackie Durand qu'on a dû laisser à Paris puisque nous sommes à Toulouse. On a laissé Jackie Durand à Paris pour sa dernière et il va précisément nous parler avec les mitonnages, il va précisément nous parler des confitures.
Eh oui, tous les étés, on se fout dans la même mouise. Tout ça parce qu'on sait pas dire non aux amis quand ils veulent nous fourguer leur confiture maison et que je te remplis la bagnole avec des pots d'abricots du Roussillon, de la gelée de groseille des copains, de la framboise du Vercors, du sureau du Jura, des figues qui nous viennent de l'Aude, de la marmelade de figues du Var aussi, et j'en passe. Le coffre, il est plein à ras la gueule, c'est l'épicerie du bon marché ambulante. Alors à peine dépassé la porte de Chaumont, on suppute aux gamberges, mais où va-t-on ranger toutes ces confitures, cette meute sucrée? On a bien songé ajouter une étagère, mais vu le caillon, mot venant de l'est de mon pays, régnant dans la cambuse, ça reviendrait à installer un lit à baldaquin dans une trabant. Alors on bourre le placard, qui est déjà chargé comme une brebis lourde, entre la farine de châtaigne, le cornebif, le lingot du Nord, 10 boîtes de pâté, jamais moins, pour déguster avant la matinale de France Culture, sans compter le CD de Lou Reed, Berlin bien sûr, qui aurait sa place nulle part ailleurs, car nous, on écoute Berlin en cuisinant le bœuf carotte au cœur de l'hiver. Et on vous épargne les denrées périmées. Oui, les fonds de paquets de pâtes, les boîtes de baked beans que l'on mangeait avant au petit déjeuner. Faut dire qu'on n'aime pas acheter, parfois ça a du bon, on retrouve comme ça une jolie bouteille de Bourgogne à manger avec le bœuf carotte. Vous savez que ça a un nom, cette tare, ça s'appelle la silogomanie. Hein, le fait d'entasser, de tasser les pots de confiture comme ça dans le bahut. Il y en a tellement que l'autre matin, alors qu'on déjeunait avec le fiston, nous c'était fromage et café noir, il s'est mis à hurler « Il est où mon Nutella? Il est où ?» Nous, on l'a contemplé, un peu énervé, on rigolait. On s'est dit, il va pas s'y retrouver entre la gelée de pétales de rose, la pointe à la vanille et l'orange gingembre. Mais c'est pugnace à cet âge-là. Il nous a sorti, t'as pas jeté mon Nutella? Non, il est dans le frigo à côté du pâté naf. C'est pas sa place qu'il a fait. On n'allait pas lui donner raison, mais c'est vrai que quand même, dans l'entassement des confitures, il y a un peu à boire, à manger, quelques gelées un peu trop liquides ou au contraire trop cristallisées. Mais franchement, pitié pour tous les confituriers du dimanche et des congés payés. Ils sont pas toujours inspirés, mais qu'importe, ils se donnent du mal pour nous offrir en épluchant, en dénoyautant, en épépinant, en râpant, en pressant. Vous savez, ils choisissent des beaux pots qui coûtent une blinde, ils fabriquent de belles étiquettes que l'on dirait écrites à la plume sergent, major, encre de Chine et plein et délié. Et surtout, surtout, ils confisent de la générosité des souvenirs qu'ils aiment partager. Car comme toutes les conserves, la confiture, elle raconte des histoires, elle raconte des tranches de vie qui dégoulinent sur le pain grillé. Par exemple, c'est une promenade sur un chemin creux où il y a 10 murs, un fond de friche avec un pêcher de vigne qui fait de la résistance. Quoique franchement, si un jour on trouve encore des pêches de vigne, on les mangera comme ça, on les mettra pas en confiture. Ça serait péché, sinon. Ou même, vous savez, le cajot d'orange que nous tend l'épicier insomniaque au sortir du métro. On se dit, tiens, on va faire une jolie marmelade au cœur de l'hiver. Ces petits bonheurs, ils réussissent quand on les étale par-dessus une bonne couche de beurre qui sent la noisette. Et franchement, tous les ans, on se promet d'aller faire nos confitures de l'été. On peut être inspiré, bien sûr, par des recettes familiales. Mais il y a aussi les jolies recettes de confitures inattendues. C'est de François Couplan. Il fait des recettes aux fruits, aux fleurs, aux légumes. Il est ethnobotaniste. Il est vraiment passionnant. Et par exemple, il nous propose comme un galop d'essai avant l'été. Je suis sûr que vous allez essayer, Caroline et Doria aussi, une confiture de pommes au miel. Vous prenez 1 kg de pommes bien mûres, 800 g de miel, un jus de citron. Vous faites fondre le miel au bain-marie. Attention, il ne faut pas qu'il brûle. Vous pelez, vous épépinez les pommes, vous les râpez avec votre râpe à fromage, même avec un couteau éplucheur, pourquoi pas. Vous mélangez avec le jus de citron pour que les pommes ne noircissent pas. Vous mélangez aussi avec le miel. Vous laissez macérer pendant toute la nuit en remuant de temps en temps si possible. C'est sûr que quand on commence la matinale à 5 heures, on peut se permettre de remuer à 5 heures la confiture. Le lendemain, vous faites cuire doucement environ 20 minutes en tournant fréquemment jusqu'à bonne consistance. Vous mettez en pot et on pourra par exemple essayer de la déguster à la rentrée ensemble, n'est-ce pas ?